Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Ouais, on m'a coupé la chic jusqu'à 21h, donc on débrief l'actu tech avec Frédéric Bianchi qui est là, journaliste à BFM Business, Yves Maître, voilà, Operating Partner, Joel Capital, consultant, ancien PDG de HTC, Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste lui aussi à BFM Business. J'aimerais qu'on parle maintenant de Nvidia, puisque vous le savez, c'est l'événement de l'année dans le monde de l'intelligence artificielle. Et en fait, cet événement est comparable à celui d'Apple qui présente un nouvel iPhone. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Nvidia organise pendant 4 jours une énorme conférence de développeurs pour présenter en fait toutes ces nouveautés. Et certains parlent même d'un Woodstock de l'IA. Anthony Morel nous en parlait ce matin dans la matinale.
On a l'impression d'être plus à un concert de rock, si vous voulez, qu'à une conférence développeur, parce que c'est ça quand même, hein, cet événement, grand événement organisé par Nvidia qui veut montrer une fois de plus qu'il est au centre de la révolution de l'intelligence artificielle. Et donc là, on est dans une salle de concert, il y a 18 000 personnes, 300 000 personnes attendues en tout, en présentiel et en distanciel, donc Woodstock, ça doit être à peu près ces chiffres-là, avec comme rockstar, j'allais dire, Jensen Huang, qui est le patron d'Nvidia, emblématique, le fondateur, avec sa veste en cuir, comme à chaque fois, qui venait présenter son nouveau bébé. C'est ça que tout le monde attendait, sa nouvelle génération de puces, de GPU, comme on appelle ça. Alors, elle est appelée Blackwell, celle-ci. Les GPU, pour rappeler, hein, c'est la brique de base de l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet d'entraîner les modèles de langage, par exemple. C'est ce qui permet de les faire tourner aussi. Quand on utilise ChatGPT au quotidien, eh bien, ça passe par un GPU Nvidia. Et là, on a la nouvelle génération qui arrive. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est une nouvelle architecture.
Ça va vite.
Qui permet d'aller, voilà, exactement, beaucoup plus vite, 4 fois plus vite, et d'être 25 fois plus efficace d'un point de vue énergétique, ce qui est un très gros enjeu. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est très gourmand en énergie, les usages sont exponentiels, et donc évidemment, on va avoir besoin de puces moins énergivores. Ça va venir remplacer ou succéder à la H100, c'est la star du secteur en ce moment, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est des composants qui coûtent 40 000 dollars pièce, et que toutes les entreprises s'arrachent à tel point qu'Nvidia peut se payer le luxe de choisir ses clients aujourd'hui. Ça va probablement être exactement la même chose avec cette nouvelle génération.
Voilà, une super puce à l'occasion d'un super événement, tout ça dirigé de main de maître par un super PDG, tout va bien chez Nvidia. Et à noter que la semaine prochaine, mardi prochain, je recevrai Serge Palaric, qui est le vice-président IMEA chez Nvidia. Il viendra nous présenter en fait toutes ces nouveautés qui sont nombreuses.
Pour l'anecdote, Jensen Huang est allé dans le restaurant où il faisait la plonge, qui était un des, vous savez, vous connaissez ces franchises, ça s'appelle les Denny's là aux États-Unis.
Voilà, les trucs de les burgers.
Un peu très entrée de gamme. Ouais. Et il était plongeur dans ses restaurants. Et c'est là où il a eu l'idée un peu. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Il se disait, mais tiens, comment améliorer la puce. Et là, il est retourné pour fêter les 40 ans les 30 ans de l'entreprise. Il est retourné sur ce Denny's. Il a laissé 1000 dollars de pourboire à tous les salariés. Donc c'était assez. Enfin voilà, c'était pour une petite anecdote autour de Jensen Huang, qui, parce que je faisais un peu le rapprochement, Steve Jobs n'avait pas donné 1000 dollars à tout le monde, mais voilà, qui devient une vraie personnalité. Oui. Voilà, on va.
C'est vrai, il sort du bois parce que, nous, spécialistes de la tech, on l'a repéré il y a quelques années. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est passé du jeu vidéo à l'automobile, hein. Il a eu très tôt il a pris le virage, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, de l'automobile. Le minage de crypto-monnaies, il y a quelques années de cela, et là maintenant, l'intelligence artificielle. Belle boîte,
en fait, il a pas changé, il a toujours fait pareil. Il a fait toujours les mêmes GPU et ce sont ces secteurs sont venus chez lui. Hein. Il n'a pas changé d'activité, Nvidia, Jensen Huang, c'est toujours ces mêmes GPU qu'il améliore. Donc là, c'est une amélioration. Donc Anthony l'a bien dit, 4 fois plus puissant, 4 fois moins gourmand en énergie. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant au-delà du produit, c'est l'événement. c'est de voir que c'est un produit que personne va acheter, hein. Moi je ne serai pas client d'Nvidia, personne autour de cette table non plus, mais c'est de voir que il fait une keynote comme Steve Jobs le faisait à l'époque, devant encore plus de monde. Il y avait des milliers dans la salle, il y avait des entreprises, il y avait tous les géants de la tech, il y avait L'Oréal, il y avait Jaguar. Enfin voilà, c'est devenu, prenez une entreprise, multipliez son cours de bourse par 10 en un an et demi, hein, c'est 2200 milliards de dollars le cours de bourse d'Nvidia. Mettez cette technologie là au cœur de ce qu'on présente comme la révolution technologique du moment et voir la révolution de l'économie mondiale, eh bien vous obtenez ce phénomène-là, même si c'est vrai que le grand public, les gens qui nous écoutent, Nvidia, c'est dans le capot, c'est sous le capot, on ne le voit pas.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des comparaisons. Il serait possible en fait d'entraîner les derniers modèles d'IA en utilisant 2000 puces de type Blackwell, donc c'est la nouvelle puce, pendant 90 jours et en consommant 4 mégawatts d'énergie. Et avec les puces H100, qui sont donc les puces actuelles, cet apprentissage nécessiterait 8000 puces et 15 mégawatts. Donc on se rend compte là, concrètement, de l'avancée technologique de cette nouvelle puce. Yves ?
Moi, je suis. C'est assez fascinant l'accélération qui est en train de se passer. Et c'est pas par hasard que Nvidia arrive où il est. D'abord, il y a énormément de travail, énormément d'investissement, énormément de risques. Il a, comme tu le mentionnais, Frédéric, fait plusieurs choses, entre autres les cartes graphiques pour les jeux. Il faut savoir qu'il est taïwanais. Taïwan, c'est quand même là où il y a eu tous les ordinateurs pour jeux. C'est là où il y a TSMC. Donc, il y a vraiment un écosystème, moi, qui est vécu et travaillé à Taïwan. Je pense que je suis assez bien placé pour parler de ça. Donc, il fait partie de cet écosystème. Il fait partie de cette famille-là. Et il est doué. Bon, maintenant... Ce qui est remarquable aussi, c'est que par-delà la puce, il a fait un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des développeurs, il y a des programmes, il y a des clients.
Oui, ils ont présenté beaucoup de grosses plateformes logicielles hier.
Et en fait, même s'il a un concurrent qui demain va faire le même type de chipset, qui va copier ce qu'il fait, eh bien, le concurrent, il n'a pas cet écosystème. Donc, il est dans une situation.
Oui, de monopole, quasi.
Alors, quasiment de monopole. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose...
Ce qui est fou, c'est qu'il laisse sur le bas-côté Intel.
On voit à la télé la taille. Parce que pour faire des chipsets de cette taille-là, c'est le maximum de taille qu'on sait faire. Et alors, évidemment, il y a beaucoup de processeurs, mais c'est... Je vous assure que c'est incroyable de faire ça d'un point de vue industriel.
Parce que là, c'est gravé en quelle finesse
Je pense qu'il est en 3 nanos.
En 3 nanos, vous rendez compte, parce que c'est une grosse puce avec du 3 nanos...
Et ce qu'il y a de fou par-de-ça, c'est l'avancée de la technologie américaine. Quand on voit ça, alors là, on dit, le reste du monde, la totalité du reste du monde a complètement décroché. Et là, les États-Unis, tout d'un coup, avec ça, plus avec ce qu'a annoncé Sam Altman en Corée de GPT-5 hier, parce qu'ils travaillent ensemble, ils sont sans arrêt fourrés ensemble, hein, ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre à vol d'oiseau.
Rappelle-nous ce qu'a dit Sam Altman justement en Corée concernant la différence de puissance entre ChatGPT-4 et la version 5.
Alors c'était cette nuit pour nous, parce qu'il y avait un décalage. Il était dans une petite salle, c'est rigolo de regarder ça. Il y avait quelques personnes, puis il interviewait, donc on voit quelqu'un au micro, et puis il y a une trentaine de mecs enfin, qui sont là, un peu avachis sur des canapés, etc. Et il lui pose la question, alors c'est quoi ton nouveau truc, quoi ? Et il dit, on va sortir ChatGPT-5. Et donc, il y a un petit débat, et il explique un truc, et il dit, la différence entre GPT-4 et GPT-5, c'est la même différence qu'entre GPT-3 et GPT-4. Alors, ça ne dit pas grand-chose, sauf que GPT-3, c'était vraiment la préhistoire. 3,5
C'était la grosse claque.
Celui qu'on a connu.
Qui était lancé en novembre 2022.
Ah ouais. Et 4, on a dit « ah ouais, ouais ». Alors là, je ne sais pas ce qu'on va dire. Quoi. Parce que s'il y a le même écart entre 4 et 5 qu'il y a entre 3 et 4...
Ouais, ça va être violent.
Et pour faire cet écart-là, il faut des puissances de calcul. Comme par hasard, ils disent les choses le même jour ou à quelques heures d'intervalle. Aux deux bouts du monde, aux deux coins du monde.
Il n'a pas laissé entendre quand pour arriver ChatGPT 5.
Alors, ils lui ont posé la question. Il a dit qu'il ne savait pas, parce que je pense que c'est compliqué, qu'il faut
bien sûr.
Pas faire n'importe quoi.
Et je pense que depuis les mésaventures au bord d'OpenAI, il doit vraiment réfléchir avant de parler, je pense, avant de dire des bêtises.
Mais il annonce déjà le 5. Allez, tout le monde sait que ce n'est pas dans 2 ans. ce sera entre maintenant et peut-être 12 mois. C'est, voilà. Mais on ne peut pas faire une annonce quand on est CEO d'une boîte comme ça à 24 mois. Ça n'existe pas. Donc, ça donne des ordres d'idées. Ce n'est probablement pas à 15 jours, sinon il l'aurait dit. Mais voilà, on est dans, je dirais qu'entre 6 et 12 mois, il ne faudrait pas être surpris de le voir annoncer.
Une bonne communication, ça. Comme on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est une bonne communication. Non, ce qu'il faut voir, enfin, ce qu'il faut regarder pardon, par rapport à Nvidia aussi, c'est comment tout ça va évoluer. Parce que les autres concurrents, les AMD, Intel, ils ne vont pas rester non plus à regarder le trapassé. Ils sont en train de travailler sur des choses. Alors, peut-être moins, c'est-à-dire que Nvidia, comme l'a dit Fred, le Nvidia est resté sur une technologie de matriciel, calcul vectoriel. Alors là, grâce au logiciel, ils ont réussi à réduire, à augmenter la performance et à réduire, alors un peu de matériel évidemment, mais c'est une très très grosse boîte de logiciels aussi. Faut le voir. D'ailleurs, ils ont sorti une plateforme logicielle pour donner de encore plus d'intelligence aux robots. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'on a vu Sam Altman pour le reciter, qui est en train de chercher des milliards, des milliers de milliards. Pour investir dans les nouvelles puces, il y a certains qui se disent ben oui, mais on commence, parce qu'on commence à voir vraiment même des clients entreprises qui disent moi je vais prendre du Gemini avec la puce Google, moi je vais prendre du Gemini avec, tiens, je vais prendre moi du Nvidia. Et donc certains se disent tiens, on a peut-être des domaines où on n'aura pas besoin d'un tel type de puce à 40 000 $ qui
consomme. Et donc là, Intel ou AMD peuvent avoir leur mot à dire.
AMD peuvent avoir des puces beaucoup plus spécifiques
ou Qualcomm
dédiées à l'IA, parce que là on l'a dit, on est parti.
Même Qualcomm, finalement.
Parce qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo va demander, notamment pour avoir une qualité d'image, demander plein de calculs, que ces puces étaient très importantes, enfin étaient compatibles justement avec ce qu'on recherchait en IA. Mais maintenant, si on refait un peu son modèle de pensée et qu'on commence à développer, à se dire tiens, pour l'IA, j'ai besoin de ça, et bien voilà le type d'architecture de puce, on va peut-être avoir une nouvelle génération. Et donc, et Nvidia est quand même très prudent. Alors, ils doivent aussi avoir dans leur labo, ils imaginent des choses, mais je pense que la bataille 2024-2025, ça va être assez intéressant de voir si Nvidia va garder cette suprématie. Certains commencent à en douter en disant voilà, on a quelques signaux faibles comme quoi
après Nvidia va se retourner. À une telle avance, on sait que dans ce secteur des technologies du numérique, il y a toujours une primo leader. Et aujourd'hui, l'archi-leader est Nvidia. Alors oui, ça ne veut pas dire que de toute éternité, Nvidia dominera le marché. Mais aujourd'hui, Nvidia se présente comme ce qu'a dit le PDG Wang, comme le fondeur de l'IA. Il se présente un petit peu comme le TSMC de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'Nvidia ne fabrique pas ses puces. Hein, il est fait fondre par des fondeurs. Mais lui, il dit, moi, je suis le fondeur de l'IA. C'est-à-dire je fabrique les briques de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est incontournable.
Il me rappelle Cisco. Tu sais, Cisco disait, nous, on a 80%. Mmh. À une époque, Cisco, c'était 80% des routeurs. Internet, tout Internet fonctionnait à 80% grâce à des routeurs Cisco. Aujourd'hui, Cisco, ils viennent de sortir 28 milliards pour acheter Splunk. Mais ils n'ont plus cette suprématie. Donc, il faut. J'espère qu'ils seront tirés les leçons pour garder cette avancée.
Mais on voit d'autres choses arriver. Là, c'est des chipsets. Donc, on voit, c'est monolithique. C'est la même chose. C'est des gros GPU. GPU, c'est au départ, c'était pour faire du graphique, G comme graphique, ok. Et on voit maintenant quelque chose qu'on appelle des chiplets, ok. Et ce sont des architectures un peu différentes où ce sont des petits sets, des chipsets répartis qui parlent entre eux avec un espèce de cœur, on va dire, des GPU qui se parleraient entre eux avec des cœurs. Donc, et là, AMD a fait le pari du chiplet. Donc, je pense que on va avoir une compétition. On voit par exemple une société comme Blue Ocean qui se met à faire des chiplets et qui commence. AMD fait des chiplets. Au départ, Nvidia a dit on n'y croit pas du tout. Et il y a une petite année, discrètement, ils ont dit qu'ils allaient se mettre à faire du chiplet. Mais le pionnier dans le chiplet, c'est AMD. Et je pense que dans 3-4 ans, il va y avoir une vraie compétition sur les serveurs AI, entre des chipsets et des chiplets.
Et donc AMD pourrait revenir sur le devant de la scène avec.
D'ailleurs, il suffit de regarder le cours d'action d'AMD.
Et puis surtout avec SoftBank qui est en train de remettre de l'argent aux pauvres. Rappelez, SoftBank voulait à un moment revendre AMD à Nvidia. Juste un mot, Yves. Toi,
et après, on enchaîne sur Apple.
Toi qui connais bien cet univers, tout le contexte géopolitique. On n'en parle pas beaucoup, pourtant on sait que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, se dit Taïwan, c'est protégé et tout ça, mais est-ce que là il y a quelque chose qui pourrait un jour jouer, parce qu'il faut quand même rappeler que tout ça est fondu
à Taïwan
donc,
mais je fais Moi, évidemment, il s'avère qu'à l'endroit où j'habitais à Taïwan, à littéralement 50 ou 60 mètres de chez moi, habitait le fondateur de TSMC. Bon, sa maison était un peu plus grande
que la tienne.
Et puis lui, il y avait beaucoup de gardiens. Oui, je pense que Taïwan, c'est le cœur. C'est sûr qu'il y a un enjeu. Les Chinois travaillent plus sur le chiplet parce qu'ils savent que sur le chipset, ils sont largués. Mmh. Les Américains ont décidé de faire des usines, ont demandé à TSMC de faire des usines aux États-Unis, c'est-à-dire ils se préparent. Bon, maintenant, le jour où les Chinois vont envahir Taïwan, s'ils l'envahissent un jour, s'ils devaient l'envahir un jour, je pense qu'il faudrait être fou pour détruire TSMC, quoi. C'est la poule aux œufs, poule aux œufs d'or.
Bien sûr.
Et de toute façon, il y a tous les ingénieurs resteraient là. Donc, c'est vrai que c'est une vraie interrogation géopolitique. Ouais.
Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer. Hein.
Alors
c'est
ça,
c'est vraiment c'est une grande interrogation.
C'est l'histoire entre Asiatiques.
Ouais. 20h50. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on évoque aussi ce gros titre d'actualité que tu as évoqué déjà hier, hein,
oui,
Fred,
hein,
puisque
peu,
tu étais à la présentation de Tech & Co, c'est Apple. Alors, vous savez qu'Apple est en train de préparer son iPhone 16, qui sortira à la rentrée, et avec l'iPhone 16, iOS 18, qui est le nouveau système d'exploitation qui est mis à jour chaque année. Depuis un moment, on nous dit que ce système d'exploitation mettra vraiment en avant l'intelligence artificielle. Le seul truc, c'est que Bloomberg aurait eu des informations comme quoi Apple sera en train de négocier avec Google pour intégrer Gemini, en fait, donc le ChatGPT de Google, hein, pour faire clair, pour que tout le monde comprenne, dans l'iPhone. Et là, c'est quand même une sacrée news. Tu l'as commenté hier, je pense qu'il faut y revenir aujourd'hui. J'aimerais avoir ton avis, Yves, et aussi Fred, là-dessus, parce que c'est aussi un petit constat d'échec pour Apple, qui, s'il est obligé de faire appel à Google, c'est qu'il n'est pas prêt pour avoir sa propre solution maison en termes d'intelligence artificielle, non ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Et après, Fred. Oui, c'est une surprise et c'est pas une bonne surprise pour les fans d'Apple, parce que, comme tu le dis, c'est quand même un constat d'échec.
C'est une rumeur, hein, pour l'instant. Hein, attention.
C'est une rumeur. Bon, ce qui est sûr, c'est que tous les gros ont tous eu une solution, sauf Apple. Apple a fait le pari de garder, hein, c'est toujours de garder les données personnelles sur le téléphone. Et donc, il a fait le pari d'avoir des chipsets, hein, d'avoir ces petites puces qui vont permettre à l'intelligence artificielle de travailler sans sortir du téléphone, okay, pour garder les données dans la poche du consommateur et lui garantir qu'elles sont pas. Sauf que pour faire ça, c'est un pari qui est très osé. Et aujourd'hui, il semble que l'ensemble du software et de ces puces de chez Apple ne soit pas au niveau, en tout cas, pour être par rapport à la compétition. Donc, ils sont très probablement, ils vont y arriver, ils vont y aller, ils travaillent. Mais en attendant, soit ils continuent à prendre du retard, soit ils sont obligés de partir avec un autre partenaire. Mmh. Et comme ils travaillent déjà avec Google, ils partent avec Google. Alors après, ça pose beaucoup de questions sur le droit à la concurrence, sur etc., etc. Mais je pense que le pari d'Apple reste de faire de l'intelligence artificielle qu'on appelle « on edge », c'est-à-dire sur le smartphone, pour garder les données utilisateurs sur le smartphone. Alors que si l'intelligence artificielle est faite dans le cloud, évidemment, les données, à un moment, sortent. Et quand elles sortent, elles sont plus vulnérables.
Mmh. Ben, c'est un petit peu Apple s'est enferré là-dedans, finalement, dans cette communication. Chez nous, vos données sont protégées. On voit ces pubs où l'iPhone se retourne et où on a un cadenas. Donc, finalement, Tim Cook s'est retrouvé coincé dans sa communication.
Cadenassé.
Voilà. Hein, et c'est exactement. Parfois, bravo, Yves Maître.
Bravo.
Tim Cook est un peu pieds et poings liés par sa communication en disant, ben, chez nous, notre écosystème est le plus sûr. Donc, il faut que tout soit dans le téléphone. Ensuite, moi, l'accent que je voudrais mettre, c'est quel rendez-vous manqué quand même de la part d'Apple. Apple, ils arrivent en 2011 avec un assistant personnel Siri qui aurait pu être la base de départ de justement une intelligence artificielle générative. Ils auraient pu mettre énormément de moyens là-dedans, investir là-dedans. Apple a quand même d'autres moyens que ce qu'a pu avoir OpenAI depuis quelques années. Apple aurait pu mettre le paquet là-dessus. Ils l'ont pas fait. Ils se retrouvent aujourd'hui avec un modèle, avec un langage Ajax qui, semble-t-il, est pas prêt. Ils vont taper à la porte de Google et peut-être d'autres. Hein. On dit Google, mais apparemment, ils sont allés voir Mistral aussi.
OpenAI.
Et pour vite essayer de rattraper ce qui peut l'être, moi, je trouve que est-ce qu'on n'atteint pas un peu les limites du management de Tim Cook qui n'a pas su investir et mettre ses œufs où il fallait.
Juste une chose, entre Apple et Google, il y a des relations, on va dire, cordiales la plupart du temps. Hein. Il faut savoir que le moteur de recherche dans Safari, c'est Google. Et je crois que Google donne des milliards et des milliards à Apple chaque fois. Rappelons que le premier iPhone, la première appli sur l'iPhone que Steve Jobs avait présenté, il y avait YouTube. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, c'était déjà un service Google. On voit qu'il y a enfin, ça, c'est des concurrents sur plein de choses, mais c'est aussi des partenaires. Et finalement, là, peut-être que Tim Cook se dit, mon partenaire de l'IA, pourquoi pas Google, quoi, finalement.
J'ai une théorie aussi là-dessus. Alors, au-delà de tout ce que vous dites, ce qui est parfaitement juste, c'est qu'on ne regarde pas assez les hommes. Et je pense que les cerveaux de l'IA, ils sont pas chez Apple. Et c'est le gros souci. Les cerveaux de l'IA, ils sont chez Google, ils sont chez OpenAI. Il n'y en a pas des milliers. Je fais toujours l'analogie.
Mais Apple a un trésor de guerre de près de 200 milliards.
Mais oui, mais il faut avoir envie d'aller chez Apple.
Mais il faut avoir envie. Donc c'est avoir un envie. Problème et on de peut stratégie parler. D'entreprise. Et donc,
c'est comme le foot. Hein. Le foot, t'es un super joueur de foot. On va te dire, tiens, mais tu vas te payer 10 fois plus. Tu vas aller jouer en Arabie Saoudite parce qu'ils vont te payer 10 fois plus. Je dis, oui, mais moi, la compétition, elle est en Europe parce qu'il y a le Barcelone, parce qu'il y a le Madrid, parce qu'il y a le PSG, etc. Et je pense que dans l'IA, moi, je suis en train de monter ça, je suis en train d'essayer de repérer un peu les 200 personnes qui comptent dans l'IA et d'essayer d'un peu de voir. Alors parmi ces 200 personnes, on dit qu'il y en a 70-80 qui sont vraiment les gros cerveaux. Et à mon avis, il n'y en a pas beaucoup chez Apple. Et c'est ça le gros souci. Il y en a beaucoup dans les startups, il y en a beaucoup évidemment chez Google, OpenAI, voire même chez Amazon, chez Microsoft, etc. Et je pense qu'ils ont un vrai souci d'avoir le Johnny Ive de l'IA. Enfin, c'est l'une de mes hypothèses.
Quand il a fallu dépenser par exemple, dans l'automobile, ils ont su aller chercher les experts, ils ont su mettre les milliards sur la table pour au final se planter. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ces milliards-là et débaucher des experts de l'IA plutôt que courir après ces.
Après de l'IA, il y en a déjà dans l'iPhone.
Il y en avait déjà, mais ils n'ont pas aujourd'hui de l'IA générative.
Là, on parle d'IA générative, on est d'accord. Hein. C'est le fait de rendre Siri moins bête.
Il y a quand même une interrogation sur Apple. C'est la plus grosse capitalisation mondiale. Ils ont annoncé, dans les 12 derniers mois, pas de téléphone pliable, ok.
Après, les avis divergent là, visiblement. Il y a des rumeurs.
Enfin, aujourd'hui, il y en a pas. Samsung en a, Honor en a, Xiaomi en a, tout le monde en a, Huawei en a, pas eux. C'est les seuls qui n'en ont pas, quand même. La voiture, ils annoncent qu'ils arrêtent. Le dernier iPhone, les nouveautés, faut un peu les chercher.
Casque très.
Ils innovent avec le Vision Pro. On n'a pas le temps d'en parler parce que le timing.
Le Vision Pro, c'est une innovation.
Quand même.
Pour le moment, on ne savait pas si c'était un top ou un flop. Pour le moment, on n'est pas sûr que ce soit du tout un top. Alors, on verra les générations à venir.
C'est dans des années qu'on s'en rendra compte.
On s'en rendra compte. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Tim Cook a annoncé, il l'a annoncé publiquement, qu'il était temps de prendre la retraite. Donc, je pense qu'il y a une attente et il y a un besoin. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il faut que je prenne ma retraite. Donc, quand quelqu'un dit il faut que je prenne ma retraite, c'est pas dans 15 ans, ok, sinon il le dirait pas. Ça veut dire que c'est quelques années,
trois années.
Bon. Ça veut dire que Apple va devoir changer et à un moment de changement, et il faut qu'il change.
On reviendra évidemment sur ce sujet parce qu'il est toujours très intéressant de
on pourrait faire une soirée un peu spéciale Apple en panne d'innovation.
Ouais, en panne d'innovation. En effet, on invite Tim Cook, tiens, pour voir s'il pourrait venir nous en parler. Juste une info, on va avoir une VP de chez Apple bientôt. Mi-avril, on aura la VP Santé Monde. Qui sera sur le plateau de Tech & Co. Pendant une demi-heure. Vous savez que, alors, s'il y a plein de choses qui marchotent chez Apple et d'autres qui marchent très très bien, l'Apple Watch marche très bien. Et en fait, tout ce qui sont, la stratégie santé qui sont en train de dérouler est passionnante.
C'est la santé, oui.
Ouais, et on en parlera donc avec la VP Santé qui sera avec nous.
Le développement durable, ce sont deux des gros succès d'Apple en ce moment.
Exactement. Et puis l'iPhone, il ne faut pas oublier qu'attendez quand même, c'est un téléphone, enfin, c'est le téléphone le plus vendu au monde. Malgré tout, et qui commence à millions.
C'est vrai qu'il y a moins d'excitation, on a déjà parlé, parce qu'il y a moins d'innovation dans tout le secteur.
On va parler de la santé de l'innovation chez Apple.
Ouais. Là, c'est ça. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Yves. Yves Maître était avec nous ce soir. Merci à Fred Bianchi.
Merci à tous.
Et merci à Fred Simotel, qu'on retrouve demain.
Et on va écouter.